Chapitre 5. Le chacal. À cette époque, la plupart des hommes buvaient tellement, et il y a eu sous ce rapport un progrès si notable dans les mœurs, que, de nos jours, quiconque citerait la quantité de liqueur enivrante qu'un gentleman engouffrait alors sans porter la plus légère atteinte à sa réputation d'homme bien élevé, serait taxé d'exagération ridicule. À l'égard de ses habitudes bachiques, le barreau n'était certes pas en arrière des autres professions savantes, et M. Stryver, qui avait déjà fait un chemin rapide vers une clientèle aussi lucrative qu'étendue, rivalisait de tout point avec les praticiens les plus célèbres, qu'il s'agît de la bouteille ou des parties arides de la chicane. Très en faveur à la cour criminelle, et qui plus est aux cours civiles, cet habile homme commençait à élaguer avec prudence les degrés inférieurs de l'échelle qu'il continuait à gravir. Non seulement Old Bailey, mais la cour du banc du roi, tendaient les bras à leurs favoris, et l'on voyait M. Stryver, se poussant d'un vigoureux coup d'épaule en face du grand juge, montrer au-dessus d'une plate bande de perruque sa figure épanouie qu'il faisait virer comme un tournesol vers l'astre éclatant du jour. On avait souvent remarqué, dans le barreau, que si M. Stryver était doué d'une parole facile, d'un caractère peu scrupuleux, d'un esprit plein d'audace et prompt à la réplique, il n'avait pas cette faculté de grouper les faits et d'en extraire la quintessence, qui est l'un des talents les plus indispensables à l'avocat. Mais, depuis quelque temps, il avait fait à cet égard un pas immense. Plus il avait d'affaires, plus il paraissait les creuser et en saisir les points saillants avec une pénétration qu'on ne lui soupçonnait pas. Quelle que fût la débauche qu'il avait faite la nuit précédente, le lendemain matin il possédait sa cause sur le bout du doigt et savait en tirer des moyens d'attaque ou de défense tout à fait imprévus. Sidney Carton, le plus paresseux des êtres et celui de tous qui promettait le moins, était l'allié, l'inséparable du légiste. On aurait mis à flot un vaisseau du roi, avec ce qu'ils buvaient ensemble, depuis la Saint-Hilaire jusqu'à la Saint-Michel. Jamais l'habile avocat ne plaidait quelque part sans que l'ami Carton ne fût présent, les mains dans ses poches et les yeux au plafond. Ils faisaient tous deux les mêmes circuits, se livraient en province aux mêmes orgies qu'à Londres, et les prolongeaient tellement qu'on prétendait avoir vu Carton rentrer chez lui au grand jour, d'un pas furtif et chancelant, comme un chat dissipé. Bref, le bruit commençait à courir, parmi ceux qui avaient intérêt à la chose, que, s'il n'était pas un lion, Carton faisait un merveilleux chacal, et en remplissant l'office auprès du distriver. « Il est 10 heures, monsieur, » vint dire à Sidney Carton le garçon de taverne qui l'avait chargé de l'éveiller. « Que me voulez-vous ? » « J'avertis monsieur qu'il est 10 heures. »« 10 heures du soir ?» « Oui, monsieur, votre honneur m'a recommandé de l'appeler. »« très bien, je me le rappelle. » Après avoir fait quelques efforts pour se rendormir, efforts que le garçon de taverne combattit avec adresse en attisant le feu bruyamment, Carton se leva, mit son chapeau et sortit. Il se dirigea vers le Temple, parcourut 2 fois le trottoir de la promenade de King's Bench afin de secouer sa torpeur, et alla frapper au cabinet de M. Stryver. Le clerc de ce dernier, qui n'assistait jamais à ses conférences nocturnes, était rentré chez lui et ce fut l'avocat lui-même qui ouvrit la porte à son collègue. Il était en pantoufles, en robe de chambre flottante et avait ôté sa perruque et sa cravate pour être plus à l'aise. Le tour de ses yeux présentait cet éraillement enflammé qu'on observe chez tous les francs buveurs, depuis Jeffries jusqu'à nos jours, et qui se retrouve, en dépit des artifices de l'art, dans tous les portraits des siècles bachiques. « Tu es en retard, Mnémosyne, » dit l'avocat. « 1/4 d'heure tout au plus, » répondit Sidney. Ils entrèrent dans une pièce enfumée dont les murs disparaissaient derrière un amas de livres et le parquet sous des monceaux de paperasses. Une bouilloire fumait à côté de la grille, pleine de charbon fumant, et, au milieu de ses papiers, faisant litière, brillait une table chargée de vin, d'eau-de-vie, de rhum, de sucre et de citron. « Tu as déjà bu ta bouteille, Sidney, je m'en aperçois, » dit l'avocat. « Je crois que j'en ai bu 2, » répondit Carton. « J'ai dîné ce soir avec le client du jour, ou plutôt je l'ai vu dîner, ce qui est la même chose au fond. Tu as eu là une idée rare, Sidney, de te faire confronter avec le prévenu. Comment diable y as-tu songé? Quand est-ce que tu as été frappé de ta ressemblance avec M. Darnay? Je l'ai trouvé beau garçon et j'ai pensé que j'aurais été comme lui si j'avais eu de la chance. La chance et toi, mon pauvre ami, vous avez toujours été brouillés, dit l'avocat en riant de manière à secouer son ventre précoce. Mais à l'ouvrage, Sidney, à l'ouvrage. Le chacal défit sa cravate et son habit d'un air sombre, alla dans une chambre voisine et en rapporta une jarre d'eau froide, un bassin et deux serviettes. Il trempa les deux serviettes dans l'eau, les tordit légèrement, s'en coiffa et, s'asseyant auprès de la table, « Maintenant, je suis prêt, » dit-il à l'avocat. « Il n'y a pas grand-chose, » répondit Stryver d'un ton jovial en fouillant dans les paperasses. « Combien d'affaires ? » ?»« Deux seulement. Donne-moi la plus difficile d'abord. » »« Les voilà, Sidney. Fais tout ce que tu voudras, mais vite à l'œuvre et mets-y toutes tes lumières. » Après avoir dit ces paroles d'un ton superbe, le lion s'étendit sur un sofa placé à portée des bouteilles, pendant que le chacal s'installait devant une espèce de mauvais bureau couvert de dossiers et d'où l'on pouvait également s'abreuver aux bouteilles qui se trouvaient sur la table. Les deux camarades y puisaient sans réserve, mais chacun d'une manière différente. Le lion, étendu nonchalamment, une main dans la ceinture, regardait le feu et jouait de temps à autre avec un léger feuillet. Le chacal, les sourcils froncés, la figure attentive, était si profondément absorbé par sa tâche que ses yeux ne suivaient même pas la main qu'il allongeait pour prendre son verre. Quand la besogne devenait trop épineuse, le travailleur se levait pour aller retremper ses deux serviettes et se remettait immédiatement à l'œuvre, le chef orné d'une coiffure indescriptible que son air grave et soucieux rendait encore plus excentrique. Ayant enfin complété le repas du maître, le chacal se mit en mesure de le lui offrir. Le lion voulut bien étendre la main pour recevoir ce qu'on lui présentait, fit choix de ce qui lui parut convenable et en discuta le mérite, toujours avec l'assistance de son très humble serviteur. Puis, le repas dégusté, il fourra ses deux mains dans sa ceinture et se recoucha d'un air méditatif. Le chacal puisa de nouvelles forces dans une rasade de Porto, réimbiba ses deux serviettes et s'occupa des éléments d'un second repas. Cette nouvelle proie fut servie de la même façon que la précédente et, lorsqu'elle fut complètement expédiée, 3 heures sonnèrent aux horloges de la ville. « Maintenant que la besogne est terminée, fais-nous un bol de punch, Sidney, » dit l'avocat. Sidney enleva les serviettes fumantes qui lui couvraient la tête, se secoua, bâilla, frissonna et obéit à l'ordre qui lui était donné. « Sais-tu, Sidney, que tu as été fort judicieux à propos de ce témoin à charge? Toutes les questions que tu avais prévues ont été faites. Est-ce que cela n'arrive pas tous les jours? Je ne dis pas le contraire, mais sur quelle herbe as-tu marché? Avale-moi du punch pour adoucir ton humeur. » Le chacal obéit en grommelant. Toujours le même, l'ancien Sidney de l'école de Shrewsbury, continua l'homme de loi en regardant son ancien camarade de collège. Toujours Sidney la navette. En haut maintenant, une minute après tout en bas, radieux à midi et le soir désespéré. Oui, toujours le même et toujours la même chance, répondit Carton avec amertume. Déjà dans ce temps-là, je faisais les devoirs des autres, jamais les miens. Pourquoi cela? Dieu seul pourrait le dire. C'était sans doute ma destinée. Il était assis, les deux mains dans ses poches, les jambes allongées, et regardait le feu d'un air distrait. « Carton, lui dit l'avocat en se posant carrément devant lui, d'un air d'importance, comme si la grille flamboyante du foyer eût été la fournaise où l'on forgea les efforts soutenus qui donnent le succès, et que l'ancien camarade de Shrewsbury n'eut pas autre chose à faire que de l'y pousser vigoureusement. « Carton, reprit l'avocat, ta destinée a toujours été et sera toujours boiteuse. Tu n'as aucune énergie, aucune application au travail. Regarde-moi et tâche de m'imiter. »« Miséricorde !» s'écria Sidney avec un éclat de rire plein de bonne humeur. « Vas-tu devenir moraliste ?»« Comment ai-je fait tout ce que j'ai fait ?» poursuivit l'avocat sur le même ton. « Comment fais-je encore aujourd'hui tout ce que le public me voit faire ? En me payant pour que je t'aide, ou plutôt pour que je le fasse moi-même, répliqua Sidney. Mais cela ne vaut pas la peine de m'apostropher de la sorte et d'un air aussi grave. Tu as la faculté de prendre la place qui te convient, d'où il résulte que tu es toujours devant et moi derrière. Voilà tout. Si j'occupe la première place, ne m'a-t-il pas fallu la conquérir ? Ignores-tu que je n'y suis pas né, Sidney ? Je n'en sais rien, je n'étais pas présent à la cérémonie, répondit Carton. Je ne sais qu'une chose, c'est qu'avant d'aller au collège, tu avais déjà pris ta place et moi la mienne, et que depuis lors nous avons conservé chacun la nôtre. Même à Paris, quand nous habitions le quartier latin, où nous cherchions à ramasser quelques bribes de français, de droit civil, etc., toutes les choses dont tu n'as guère profité, soit dit en passant, tu étais toujours partout et moi nulle part. À qui la faute ? Sur mon âme, je crois que c'est la tienne. Tu étais sans cesse occupé à t'ouvrir un chemin quelconque, toujours prêt à fendre la foule, à presser, à pousser, à t'insinuer. Tu accaparais le mouvement, il ne me restait que le repos. Mais il est triste de revenir sur le passé lorsque le jour va paraître. Avant que je parte, donne à mon esprit une autre direction. Je ne demande pas mieux, Sidney. À la santé du charmant témoin, dit l'avocat. As-tu maintenant une perspective plus agréable ? Apparemment non, car son visage devint encore plus sombre. Le charmant témoin, murmura-t-il en regardant au fond de son verre. J'en ai vu de toute espèce. De qui veux-tu parler ? De la jolie fille du docteur, de Miss Manette. Elle, jolie ? Est-ce qu'elle ne l'est pas ? Non. À quoi penses-tu ? Elle a fait l'admiration de toute la cour. Foin de ce jugement-là. Qui a jamais reconnu la compétence d'Old Bailey en matière de beauté ? C'est une poupée à cheveux d'or. Eh bien, Sidney, reprit M. Stryver, qui attacha sur son camarade un regard pénétrant et se caressa le menton avec lenteur, je m'étais imaginé que tu éprouvais une vive sympathie pour cette poupée à cheveux d'or, et il m'avait semblé que tu avais mis une promptitude extrême à t'apercevoir de ce qui lui arrivait. Quand une jeune fille, poupée ou non, s'évanouit sous le nez d'un homme, il n'a pas besoin d'un télescope pour le voir, répondit Carton. Je veux bien te faire raison et vider mon verre à sa santé, mais je nie formellement qu'elle soit jolie. Et maintenant, je ne bois plus. Adieu, je vais me coucher. Lorsque Sidney sortit de chez l'avocat, le jour regardait froidement l'escalier à travers les vitres crasseuses. Au dehors, l'air était froid et glacial, le ciel triste et nuageux. L'eau du fleuve épaisse et noirâtre, la ville silencieuse et morne. Des nuées de poussière couraient en se tordant, chassées par le vent de mars, comme si l'Afrique eût envoyé ses flots de sable pour engloutir la cité endormie. Seul au milieu de ce désert, ayant en lui-même le vide qui avait laissé tant de forces perdues, Carton s'arrêta au bord d'une terrasse et contempla pendant quelques instants un mirage où brillait l'amour du bien, l'oubli de soi-même, la persévérance, la dignité, le noble usage de l'esprit et du cœur. Dans cette vision éblouissante, les amours et les grâces se penchaient vers lui du haut des colonnades aériennes et lui montraient des jardins où mûrissaient les fruits de la vie et où l'espérance faisait jaillir des sources enchantées. L'instant d'après, le mirage avait disparu. Carton avait gagné sa chambre, située au faîte d'un groupe de maisons noires et humides, et se jetait, tout habillé, sur un lit en désordre, qu'il mouillait de larmes aussi amères qu'inutiles. Le soleil se leva tristement, bien tristement, au sein de la brume, et n'éclaira pas d'objet plus douloureux à voir que cet homme, doué de facultés solides et brillantes, rempli de sentiments généreux, susceptible d'émotions vives et pures, mais incapable d'en diriger l'emploi, de se suffire à lui-même, de rien faire pour son propre bonheur, et qui, pleurant son existence perdue, s'abandonne à celui qui le dévore.